Bonsoir et merci d'accueillir Joël Dupuche qui fait la présentation aujourd'hui de son livre. J'ai été choisi par, je pense, la maison Mola pour lui poser des questions. Peut-être parce que moi je suis du bassin aussi. Voilà, donc je vais essayer de trouver des questions adaptées au bassin, adaptées au personnage et adaptées au livre. Peut-être la première chose, Joël, qu'est-ce qui vous a donné envie de d'écrire un livre? Je pense que c'est peut-être ça que, au départ, c'est parti comment?
Mais d'abord, j'ai été approché par un éditeur qui m'a dit, voilà, je voudrais que vous fassiez un livre. Donc moi, comme je savais faire que des huîtres, je me suis dit, c'est un livre sur l'huître, parce que ça me paraissait d'une évidence absolue. Et puis, en discutant, il m'a dit, mais non, on aimerait bien un livre, la période est morose. On aimerait bien un livre sur le bonheur. Il y a un truc qui s'appelle La gorgée de bière, mais je suis très mauvais, moi, en littérature. Donc, il dit un truc sur les petits plaisirs, le pain qui craque, tout ça. Je lui ai écouté, moi, le pain qui craque, s'il craque pas, c'est que le boulanger est pas bon. Et je vais pas m'extasier parce qu'il craque, j'aime bien le pain qui craque tous les jours, moi. Donc, c'est pas. Et puis, je lui dis non. Finalement, ça m'intéresse pas trop parce que c'est un peu le fait que la notoriété donne le droit d'écrire, enfin, ou de parler. Très souvent, moi, des gens qui s'expriment parce qu'ils sont connus. Et j'ai dit à l'éditeur, vous êtes venu me chercher, pas parce que mon intelligence fulgurante vous a subjugué, mais parce qu'à un moment, vous êtes dit, 5 millions d'entrées, les petits mouchoirs, la marionnette au guignol, le bassin d'Arcachon, un peu de notoriété, donc on va bien faire un petit tirage. Donc au début, je lui dis non, ça ne m'intéresse pas. Et puis j'ai une fille qui est un être merveilleux, qui a 7 ans. Moi, j'ai bientôt 60 ans. Donc, potentiellement, on ne va pas rigoler longtemps ensemble. Il y a un moment où ça risque de s'arrêter. Et puis, j'avais envie de lui transmettre quelques instants magiques du bassin. Voilà. Et donc, ça a été l'occasion de dire, je m'y mets et j'écris. Voilà. Ça a été de faire. Voilà. D'aller au bout du truc.
Et donc, justement, on s'attend éventuellement à lire un livre avec des histoires croustillantes sur le bassin, beaucoup d'anecdotes. Et finalement, on s'aperçoit que c'est un livre plutôt sage et qui va au fond. Et au fond, est-ce que pour défendre le livre, est-ce que vous aviez vraiment envie d'aller au fond de votre moitié de vie ou moitié sûrement, oui, mais...
Non, mais ce qu'il y a, c'est que il y a un mec merveilleux qui s'appelle Claude Nougaro qui a écrit quelque chose d'extraordinaire pour Toulouse. Et moi, ça m'a vraiment bouleversé. J'aurais aimé faire le même cadeau au bassin d'Arcachon. Et j'ai pas le talent de Nougaro. Donc j'ai essayé de transmettre avec mes mots et mon ressenti cette passion de l'endroit. Voilà, c'était l'idée.
Et donc, vous parlez pas que du bassin, vous parlez de vos valeurs et de ce qui a construit finalement votre vie. Vous parlez beaucoup de vos rencontres, de vos amitiés, de vos connivences. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de vos rencontres, amitiés, connivences
Mais tout, parce que chaque rencontre est une nouvelle aventure, chaque rencontre est un nouvel échange, chaque rencontre est une découverte, et chaque rencontre, c'est un partage, donc on donne et on reçoit. Et moi, c'est vrai que les voyages et les rencontres ont construit ma vie. C'est-à-dire que je vivais dans un petit milieu, dans un village où on était 8 maisons et 4 entreprises ostréicoles. Ma vision du monde se résumait à peu près aux limites de mon village. Et la normalité, c'était ce qu'étaient les gens de mon village. Donc j'avais une vision du monde qui était un peu réductrice et que j'ai gardée jusqu'à 18 ou 19 ans, enfin, jusqu'au lycée. Parce qu'au lycée, je me suis retrouvé interne. Enfermé en prison dans un internat à Talence, il y avait pire que ça, parce qu'on avait été le lycée le plus bordélique de France à l'époque, donc c'est une prison plutôt au club méditerranéen. Mais c'est vrai que je découvrais le monde en découvrant les autres. Et puis la grande bascule, ça a été le service militaire. Parce que là, j'ai découvert qu'il y avait des gens différents, qui pensaient différemment, qui avaient été éduqués différemment, qui avaient d'autres valeurs, d'autres codes. Et puis voilà, et après, toutes mes rencontres ont été de me dire comment fonctionnent ces gens. Essayer de les regarder avec plus de curiosité que de rejet. Très souvent, quand on ne connaît pas, on rejette. Parce qu'on a peur, parce que ça peut être dangereux, parce qu'on ne sait pas pourquoi, en fait. Mais très souvent, on a tendance à rejeter. Et moi, les rencontres, ça m'a appris à aimer les autres. Voilà.
Et est-ce qu'il y en a de plus particulières qui ont déclenché des... Comme pour les petits mouchoirs, comment ça s'est déclenché, une rencontre particulière ou...
Non, mais Guillaume, c'est une rencontre simple autour d'un verre sur une terrasse qui ne prédisposait pas du tout à faire du cinéma. Et je ne m'étais même pas posé la question, puisque Guillaume, quand j'ai rencontré, il avait 20 ans. Moi, je ne suis pas un cinéphile très, très féru. Et donc, la première réflexion a été une connerie. Quand un copain nous a dit « Est-ce que vous connaissez Guillaume Canet ?» On a dit « Nous, ici, on ne connaît que Pontécanet. » Voilà, donc ça d'entrée...
Ça lui a donné envie.
Ça a posé le débat. Et il se trouve que, comme il avait beaucoup d'humour, de la curiosité, et on est devenus amis. Et puis après, c'est vraiment... Par hasard, au cours d'un dîner où on était un petit peu chaud, un dîner de fête de copains, qu'ils ont décidé de faire un sketch à Benoît Poulvorde et qu'il y a Gilles Lelouch et Philippe Lefebvre qui étaient là en train d'écrire le sketch, de préparer le sketch. Et il y a Philippe Lefebvre qui a dit « Mais Poulvorde, il connaît notre voix, jamais on va le piéger. » Et j'ai dit « Moi, il ne connaît pas la mienne, donc je vais tenter. » Et en fait, j'ai piégé Poulvorde et quand j'ai raccroché, Guillaume, il m'a dit « Mais tu joues super, tu vas tourner à mon prochain film. » Et c'est parti comme ça. Voilà, c'est parti à 2h du matin, c'était mon premier casting avec 2 grammes 6. Voilà.
Donc il faut ça.
Mais comme quoi, faut le vin,
faut
les polyphénols. 6. Les polyphénols, ça sauve, c'est un truc, c'est une certitude.
Et donc, vous parlez aussi beaucoup de l'équipe, enfin des équipes. Pour une belle aventure, il faut une belle équipe. Quelle est la plus solide équipe que vous avez croisée dans votre parcours ?
Oh, j'ai croisé plein d'équipes solides, d'équipes de rugby d'abord, parce que c'est vraiment un sport merveilleux et sport roi, si l'année. Et les équipes de cinéma. C'est surprenant parce que vraiment du balayeur, je dis balayeur en exemple parce que ça a toujours cette connotation bas de l'échelle, du balayeur au réalisateur, tout le monde est là et ils font tous le film. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans la projection de ce qu'ils font et pas dans le travail qu'il réalise vraiment. Le balayeur, il fait le film comme les autres. Et ça, je trouve que c'est très joli.
Est-ce qu'il y a des équipes qui ont échoué ?
Il y a toujours des équipes qui perdent. C'est comme au rugby, mais il faut se reconstruire quand on perd. Ça fait partie de l'esprit d'équipe, justement, de rester soudé après un échec.
Oui, vous aimez privilégier la réussite
non,
à l'échec ?
Non.
Dans le livre,
Non, je ne privilégie pas la réussite, non. Non, pas même dans le livre. Non, je dis que ce qui est à privilégier, c'est l'action, c'est faire. Après, entre gagner et perdre, le mec qui gagne 100 mètres, il gagne une fraction de seconde celui qui passe. Il y en a un qui passe à la postérité parce qu'il est champion olympique et l'autre qui passe aux oubliettes et ils ont un millième de seconde de différence. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui soit meilleur que l'autre, mais il y en a un qui est à un moment dans la lumière et pas l'autre. Est-ce que celui qui n'a pas gagné est dans l'échec ? Il a fait, mais il se trouve que ça ne s'est pas posé sur lui. Et moi, j'ai ouvert Joël D en 82. J'avais pas de sous. J'ai un banquier qui m'a suivi. J'ai mes entrepreneurs qui m'ont fait les travaux gratuitement. Et j'ai démarré sur les chapeaux de roue. L'année d'après, il a neigé à Bordeaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça va être 83. Il y a 22 cm de neige, moins 26. On ne voyait pas un client dans la rue. Personne. C'est-à-dire que la même entreprise, avec les mêmes moyens, exactement les mêmes, tout, à un an de différence, elle n'aurait jamais existé. C'est-à-dire que ce n'était pas le talent, le travail, la prévision. C'est qu'en 82, ça s'était bien passé. Le temps était clément. En 83, il n'aurait pas été clément et j'aurais disparu. Je n'étais pas plus mauvais en 83 qu'en 82. Mais j'aurais disparu si j'avais démarré en 83. Donc, vraiment... Je privilégie l'action, moi, plus que la réussite ou ou l'échec. L'échec n'est pas très grave, ça permet de se reconstruire.
Donc vous dites, s'il y a une volonté, il y a un chemin. Ouais. On a envie de demander, c'est quoi votre chemin aujourd'hui ? Enfin, c'est quoi votre volonté première aujourd'hui ?
Non, mais quand je dis s'il y a une volonté, il y a un chemin, je crois que quand on veut, on peut. Voilà, on peut essayer. Je ne dis pas qu'on peut réussir, mais on peut essayer, je crois que... L'idée de ce livre, c'est un peu d'aller au bout de ses rêves. Voilà. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est si vous avez envie de faire, faites. Si vous avez des aspirations fortes dans la vie, prenez le risque. Peut-être vous allez vous gameler, c'est pas très grave. Mais allez au bout de votre histoire. Je pense qu'il n'y a pas pire que la frustration que se dire « mais j'aurais voulu, ça m'aurait plu, mais on a toujours des tas de contingences qui nous empêchent de faire les choses. » Et moi, je crois qu'il faut aller au bout de ces histoires. Voilà. Alors des fois, on se prend des gamelles, mais monstrueuses, et j'en ai pris, je vous promets. On n'est pas toujours, c'est pas toujours grandiose à la sortie, mais au moins, voilà, on n'a pas de regrets. Enfin, je crois que c'est soit terrible, enfin, je sais pas parce que j'en ai pas, mais de vivre avec des regrets, ça va être terrible.
Vous parlez du bonheur, bien sûr, et donc vous dites cette phrase, le prix du bonheur a flambé, ce qui suppose que ça doit coûter cher d'être. D'être heureux. Quel est votre abondement pour l'être ?
C'est ce que j'ai dit juste avant. Quand je dis coûter cher, c'est le prix à payer de l'engagement qu'on prend. À partir du moment où on s'engage, on prend des risques. Aujourd'hui, on est dans une période où on n'a pas de gros risques. On peut dire ce qu'on veut. On peut être à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Il n'y a pas de risque. On peut revenir. On a toujours un billet de retour dans la poche. Il y a eu des périodes, type les périodes de guerre, où quand vous preniez un billet, c'était un aller simple. Le choix que vous faisiez, c'était... Il n'y avait pas de possibilité de retour. Et c'est là que je dis que le bonheur, c'est ce type d'engagement. Il faut aller au bout de son histoire. Et puis après, on gagne ou on perd. Mais au moins, on aura joué. On aura fait la partie, quoi. Donc c'est là que je dis que le prix du bonheur, c'est cher, parce que tout engagement a un prix. Tout temps, il n'y a pas d'engagement gratuit. Ou les engagements gratuits, ce n'est pas des engagements.
Sur un autre thème, les choses appartiennent à ceux qui les font vivre, c'est-à-dire aussi sûrement à ceux qui s'en occupent. Est-ce que, comment vous voyez le bassin aujourd'hui avec l'évolution qu'il a connue, et comment vous voyez votre paradis aujourd'hui? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que, ou pas? Est-ce qu'il évolue bien, évolue mal? Est-ce que...
Non, le bassin, fondamentalement, n'a pas changé. L'état d'esprit reste le même, même s'il y a un petit peu plus de médiatisation. C'est souvent ce que je dis aux journalistes qui disent « Ah, mais le bassin, il y a des people ». Non, je dis non, il y a toujours eu des people sur le bassin, mais il n'y avait pas de journalistes pour en parler. C'est ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous avez le moindre mec qui rate un casting dans un truc de chanson, ça devient un people. Vous avez des magazines qui font 4 pages sur lui. Pour peu que le mec débarque dans l'endroit et dise « je suis d'accord pour qu'on en parle », boum, ça fait 8 pages. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il y a toujours eu Lino Ventura venait au Ferré, Jean Cocteau venait au Ferré, Jean Marais venait au Ferré, Radiguet venait au Ferré, tous ces gens-là sont venus, personne n'en parlait, il n'y avait pas de support pour en parler. Donc il y avait... En fait, cet espace a été assez préservé, la presqu'île en particulier, et même les communes limitrophes. Le pouvoir politique a été tenu très longtemps par des forestiers et des ostréiculteurs, qui étaient des gens qui étaient assez sages, finalement, qui n'avaient pas de vue spéculative. C'est-à-dire que leur petit bonheur les satisfaisait amplement, et donc ils n'étaient pas particulièrement évolutifs du type « il faut absolument être moderne pour être moderne ». La seule ville qui a subi ça, c'est Arcachon, avec les réussites que l'on voit sur le front de mer. Et nous, en fait, on vivait avec des gens qui étaient assez sages, et je me rappelle que j'en parle dans ce livre. Mon père, qui était conseiller municipal, qui était adjoint au maire à Lège, rentrait un jour déprimé parce qu'il avait dit qu'il faut augmenter les impôts locaux, et les impôts fonciers. Et les propriétaires forestiers de Lège avaient dit « mais et pourquoi ?» Ben, il avait dit « pour mettre l'éclairage public ». Et les forestiers avaient dit « mais pourquoi ?» Quand il fait nuit, on se couche, et quand il fait jour, on se lève. Il y a besoin d'éclairage public. Et en fait, le bassin a été sauvé par ce côté, quand je dis arriéré, c'est avec beaucoup d'affection, parce que vraiment, ils ont sauvé l'endroit. Et après, dans les années 80, quand il y a eu le développement du tourisme excessif, en fait, ce côté préservation des racines, des sites et tout ça, a sauvé l'endroit et donc a empêché qu'on le touche. Mais ça aurait pu être un fiasco. Alors aujourd'hui, le risque qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir habiter sur le bassin, parce que c'est vrai que c'est un paradis. Mais malheureusement, on ne pourra pas loger la terre entière. Et je pense que s'il y avait un message politique à passer aux élus, c'est de dire que les arbres ne vont pas jusqu'au ciel et qu'à un moment, il faudra s'arrêter. Il faudra essayer de préserver cet endroit au détriment, mais peut-être du bonheur de certains qui n'auront pas la joie d'y venir. Voilà, c'est...
Il est question d'huîtres aussi, bien sûr, puisque vous aimez les huîtres. Et on se, finalement, moi j'ai envie de vous demander, une huître, Joël Dupuche, elle est, pour vous, elle est comment? Enfin, elle arrive d'où? Elle vient comment? Combien de travail? Enfin, combien de temps ça vous prend?
Mais d'abord, une huître Joël Dupuche ou une huître d'un autre ostréiculteur, c'est une huître qui met au minimum 2 ans et demi à grandir et 4 ans au plus long. Donc quand on les mange, ça dure à peu près 3-4 secondes. Donc imaginez-vous le luxe que vous avez de manger une huître qui a nécessité 4 ans de travail en 4 secondes. Donc c'est vraiment un produit à respecter, parce que c'est un joli produit. Moi, mes huîtres à moi, j'aime les huîtres plutôt charnues, même très charnues. Donc c'est vrai que j'essaye de travailler ce type de produit, mais il faut de tout dans la nature. Il y a des gens qui aiment les huîtres plutôt maigres, plutôt claires, d'autres plutôt grasses, plutôt laiteuses. Donc il y a tous les goûts, et heureusement, il y a des ostréiculteurs pour fabriquer tout type d'huîtres. Moi, je travaille plutôt sur les huîtres charnues, parce que c'est mon goût, et ensuite c'est ma clientèle. Je travaille beaucoup avec des restaurants de qualité. Je travaille avec beaucoup d'étoiles Michelin un peu partout, à Paris, à Lyon, à Valence, à Marseille, à Nice. Ce sont des gens qui veulent un produit avec une qualité très constante, et mon plaisir à moi, c'est de faire ce genre de produit. Alors c'est assez facile, non, c'est compliqué à faire, mais c'est un bonheur à faire, parce qu'on a affaire qu'à des gens sympathiques en face de nous. Et moi, quand je vais faire une visite clientèle, c'est un bonheur, parce que je n'ai affaire qu'à des étoilés qui sont plutôt des gens généreux, assez bons vivants. Et ça se termine rarement au moment de la fin du repas. Donc on continue parfois dans des nuits brésiliennes assez qualitatives. Voilà.
Oui, donc finalement, on ouvre un autre sujet. La marionnette des Guignols qui vous représente comme un peu moralisateur. Finalement, vous êtes plutôt comme elle ou plutôt comme... les fins de soirée, ou plutôt les deux, ou plutôt...
Mais l'essentiel, c'est savoir tout faire. C'est ça, il faut être pluridisciplinaire.
Oui, mais quand même.
Non, mais je crois qu'il y a des moments. Je crois que si on est avec un ami qu'on aime et qui se gourre, il faut savoir lui dire. Si on l'aime vraiment, il faut lui dire. Si on s'en fout, il peut aller s'écraser la gueule dans le mur, c'est son problème, mais c'est pas le vôtre. Mais si vous avez quelqu'un que vous aimez, je pense qu'il faut savoir lui parler. Il faut choisir le moment. Et puis par contre, si on est embordé, on est embordé, quoi. Voilà. Une troisième mi-temps, c'est une troisième mi-temps. On peut être sérieux pendant les deux premières mi-temps, et puis la troisième mi-temps, c'est la troisième mi-temps, quoi. Il faut se lâcher. En fait, il faut essayer d'être performant dans tous les domaines. C'est très difficile.
Surtout dans la troisième, quoi, c'est ça. Et ça vous fait plaisir d'avoir une marionnette au Guignol, ça vous...
Alors ça m'a inquiété, parce que quand je l'ai appris, c'est un de mes copains de Sud-Ouest qui me téléphone et qui me dit « Tu me fais des cachotteries ». Je lui dis « Mais moi, non, enfin, je ne suis pas le style ». Et il me dit, t'as ta marionnette au Guignol à partir de demain soir. Et je vous prie de m'excuser, mais ma première réaction a été, oh putain. Parce qu'on peut s'attendre au pire, globalement. Et en fait, donc j'étais le premier soir devant le premier passage de la marionnette, et je suis sorti très rassuré. Voilà. Parce que le personnage était beaucoup plus joli que moi, et donc c'était bien.
Et pour rester dans le média, la scène finalement de la fin du film, des petits mouchoirs qui est plutôt triste éventuellement, vous racontez dans votre livre votre vision de la mort et votre éclat de rire. Est-ce que cette scène a été, c'est vous qui l'avez inspirée, elle vous ressemble,
Non, Guillaume, c'est
où il pense comme vous, finalement.
C'est un scénario original de Guillaume, donc il a tout écrit de A à Z. Avec beaucoup d'émotions et de vécu, il a une qualité extraordinaire, c'est qu'il a une acuité, il a une hyper-acuité des sentiments, des comportements des gens. S'il est dans cette pièce ce soir, il est à la table, même s'il ne vous regarde pas, il va voir votre clin d'œil, votre regard réprobateur, votre regard qui acquiesce. Et en fait, il chope tout, mais pas en étant voyeur, en voulant voir. C'est que je pense que c'est vraiment une hypersensibilité. Et donc, quand il fait ses films, il est très là-dedans à retranscrire ce qu'il ressent. Donc, par contre, la partie que j'écris, c'est un hommage à mon copain Daroc, qui avait le bistrot du coin, qui était mon associé au Port de la Lune. Et c'est vrai qu'à son enterrement, j'ai failli éclater de rire, parce que d'abord, il aurait été content. Et qu'ensuite, je me repensais ça... Ces travaux de bistrot qui ont duré 3 ans, sans qu'on ne touche jamais le tas de sable qu'il y avait devant la porte. Parce que dès que j'arrivais pour travailler avec lui, il me disait « Écoute ce disque, je vais te faire écouter Joe Jones, puis je vais te faire écouter un tel. » Et on a tellement écouté de musique qu'on n'a jamais touché la bétonnière. Et ça s'est bien passé. Il a pris une entreprise au bout de 3 ans. Et finalement, après, il y a eu un accident et on a ouvert le port de la Lune 5 ans après. Donc on a fait 3 ans de travaux, enfin 3 ans d'écoute de disques pour rien, parce qu'on n'a jamais fait les travaux. C'est pour ça que ça m'a amené le sourire à son enterrement, parce que l'église était en face de son bistrot. Voilà. Et donc je me suis revu de l'autre côté de la rue.
Y aura-t-il d'autres livres, d'autres films ou d'autres aventures?
Mais des films, des films, il y en a un qui est fini, qui s'appelle Japelou, qui est l'histoire du cheval de Pierre Durand, qui s'est tourné au mois de septembre, octobre, novembre, donc qui est l'histoire d'un cheval que tous les Bordelais connaissent, puisque Pierre Durand est un grand cavalier local et Japelou est un grand cheval local. Et il sortira au mois de mars 2013, je pense. Et je crois que ça va être un très beau film. Moi, j'y suis pas pour grand-chose, je vous rassure, mais le film, je pense, sera très beau.
Voilà. Et dans l'écriture, puisque c'est quand même, il y a quand même mais beaucoup de matière.
Je sais pas. Comme là, on a vendu 22 livres, donc au bout de 4 semaines. Si on monte à 28, je suis pas persuadé que l'éditeur va continuer à assurer. Donc non, je sais pas. Je sais pas, peut-être. En fait, j'ai toujours beaucoup écrit, parce que dès que j'ai une émotion ou un ressenti particulier, j'écris. Voilà, c'est une forme de psychanalyse. Si j'ai une contrariété, une grande joie, j'écris. Et puis j'écris aussi parce qu'on est de très mauvaise foi. Et que si on n'a pas écrit soi-même des choses et qu'on se dit, tiens, mais t'as dit ça, moi, hein, jamais. Et en fait, le fait d'écrire quand même et d'avoir fixé permet de devenir humble, un petit peu plus humble qu'on le devrait. Voilà. Et donc j'ai toujours beaucoup écrit. Il y a des passages entiers de ce livre qui ont été écrits il y a 15 ans. Qui ont été repris in extenso, on ne les a pas retouchés. Parce que j'en ai écrit un sur le consensus, j'ai horreur du consensus. Et donc voilà, j'ai écrit un passage que j'avais écrit à l'époque où j'étais vice-président de la Chambre de commerce de Bordeaux. Et j'étais sorti d'une réunion un peu de mauvaise humeur parce qu'on n'avait pas été bon. Et voilà, ça m'avait évoqué un passage, j'ai dû écrire 3-4 pages sur ma vision du consensus. Qui n'est pas terrible. Merci beaucoup.